بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين، وما صاحبكم بمجنون، ولقد رآه بالأفق المبين، وما هو على الغيب بضنين، وما هو بقول شيطان الرجيم، فأين تذهبون. شفاعه الإسلام نغمسيون الله رب العزة qui nous donne la possibilité donc de nous asseoir après la salat accomplie en congrégation dans le but unique, hein, le but de notre assemblée, de notre ijtima', de notre majlis, c'est de comprendre la parole d'Allah Azza wa Jal. Il n'y a pas d'assemblée plus noble que lorsque des personnes essaient de comprendre qu'est-ce qu'Allah Rabbul Izza a révélé à la Ummah. À travers chaque « Ya ayyuhal ladhina amanu », qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jal délivre comme message. Et avant de commenter les versets qu'on a lus ce soir, les, on va dire les derniers versets à peu près de Suratul Takwir, j'aimerais avoir l'avis d'une personne qui était attentive à la salah et à la salah, à la lecture du imam. Qu'est-ce qu'il a lu dans la première rak'at? Surtout quelqu'un qui était là à l'heure. Qu'est-ce que l'imam a lu dans la première rak'at? Yalla, Abdul Malik. Masha'Allah. Ali. Non. Wanada, wanada. Ces versets, c'est vraiment des versets, subhanallah, tous les versets du Coran sont magnifiques. Les versets wanada, ça c'est une situation, on pourrait dire, entre, la, on pourrait dire soit elle est merveilleuse, soit elle est chaotique. C'est une situation, ces versets sont, décrivent une situation qui est merveilleuse pour certaines personnes et chaotique pour d'autres personnes. Lorsque cette conversation a lieu le jour de Qiyama, Wanada, Allahu Akbar. On a lu Wanada, il a commencé puis au début Wanada, Ashabul Jannati, Ashabul Nar. C'est quoi Wanada, Ashabul Jannati, Ashabul Nar? C'est-à-dire que lorsque les gens du Jannah sont déjà dans le Jannah et les gens du Jahannam seront déjà dans le Jahannam, alors il y aura une conversation, il y aura des échanges entre eux. Les gens du paradis vont interpeller les gens qui sont dans l'enfer. On a d'ashabul jannati ashabun nar. An, la grande satisfaction, ils expriment la grande joie, c'est qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan. Réellement, on a, en ce sens, on a trouvé, on a eu ce qu'Allah azza wa jalla nous avait promis certainement. Ça c'est les mufassirin disent, ça c'est le natija, ça c'est le dénouement de la vie dans les deux mondes. Ça, c'est le dénouement depuis la création de ton âme, depuis ta naissance, ton enfance, ton adolescence, la période de maturité, la période de vieillesse, sakaratul maut, les derniers moments avant de mourir, ta mort, ta vie dans la tombe, ta résurrection, la remise des livrets d'action, le passage devant le mizan, c'est-à-dire la balance, le passage sur le sirat, le pont suspendu sur le jahannam. Et lorsque tu es dans le Jannah, tu fais partie de ces gens qui peuvent enfin dire qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan. Ils disent c'est des louanges, ça, des remerciements que Allah nous a donné, ce qu'Allah nous avait promis, on l'a déjà eu. C'est un constat d'une réussite, une réussite de la vie de ce dunya et de la vie du akhira. Et ils vont poser la même question aux gens de l'enfer, est-ce que eux aussi ils ont trouvé ce qui leur était promis? Et puis il y a d'autres échanges encore. Wanada ashabun nar. Après il y a bien sûr ashabul a'raf. Et les savants disent qu'ashabul a'raf, ce sont des gens qui ne peuvent ni aller dans le jahannam ni entrer dans le jannah. Il y a deux qawls. Après on revient sur tout takwir. Il y a deux qawls. Certains savants disent que c'est des personnes qui avaient accompli une telle bonne action que le feu de l'enfer ne peut pas brûler leur peau. Mais en même temps, ils ont accompli un tel péché que le paradis ne peut pas les accepter. Qui connaît les deux actions extrêmes? J'ai déjà expliqué ça il y a dans Ramadan, je pense. Selon certains mots fasciline, ça c'est un col, un avis. disent que la bonne action qu'ils avaient accomplie, c'était quoi? Ils ont donné leur vie dans le chemin d'Allah. Subhanallah. Ils ont donné leur vie dans le chemin d'Allah. Comment voulez-vous que Jahannam touche le corps d'une personne qui a donné sa vie dans le chemin d'Allah? Mais l'erreur de ces personnes, c'est qu'ils n'avaient pas eu le contentement de leurs parents dans ce dunya. Ils n'avaient pas eu le contentement de leurs parents dans ce dunya. Et donc le Jannah ne peut pas accepter quelqu'un qui n'a pas eu le contentement de ses parents dans le Jannah. Et ça rejoint le hadith de l'imam Tirmidhi, que l'imam Tirmidhi cite, « La yadkhulu al-jannata aq », hadith qu'on répète peut-être 5 ou 6 fois dans l'année. « La yadkhulu al-jannata aq, ay aq li walidayhi », celui qui a manqué de respect. C'est pas juste aq li walidayhi, c'est pas juste manquer de respect envers les parents, parce que je peux être très respectueux envers mes parents, mais ne pas être un bon fils, comme Allah attend de moi. Je m'explique. Je peux être respectueux quand je vois mon papa, je l'appelle papa. Je l'appelle papa son prénom. D'accord? Je ne lui manque pas de respect. D'accord? Je n'ai jamais rien fait qui le déplaît. C'est-à-dire, je ne lui manque pas de respect, on est d'accord? Jamais répondu, jamais, pas d'affrontement, pas de, pas de clash, comme on dit, rien du tout. Jamais levé la voix et rien d'autre. Mais en même temps, je fais rien pour lui. En même temps, parce que je peux être respectueux envers mon papa qui habite, pas moi, mon papa habite à Réunion, je habite au Canada, et je suis très respectueux, j'envoie tous les Eid Fitr, Eid al-Adha, un message, El Mubarak, et ainsi de suite, je n'ai pas manqué de respect pour l'instant. Il n'y a que 2 échanges par an, il n'y a pas de manque de respect, mais je n'ai rien fait pour mon papa ou pour ma maman. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam monte le mimbar, vous voyez la relation entre ça et le hadith qu'on va dire, il dit Amin, Amin, Amin. Un des Amin, c'était la malédiction sur ce jeune qui avait ses parents vivants, si je ne me trompe pas, la maman ou bien les parents vivants, et qui n'a pas pu obtenir le paradis par le biais de ses parents. La'anatullah, la malédiction d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Amin. La révélation, enfin ce message est venu de l'ange Jibril alayhi sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Amin, meilleur des anges, meilleur des hommes, sur le mimbar de la masjid Nabawi. Vous voyez l'emploi de cette malédiction? C'est-à-dire que c'est pas uniquement qu'il a manqué de respect, parce qu'il n'a pas pu obtenir le paradis grâce à ses parents. Il n'a pas été dans ce qu'on appelle le khidma, il n'a pas été au service de ses parents. Il n'a pas fait ce qu'il pouvait pour être proche d'eux, physiquement, ne pas aller habiter à 50 km, ne pas garder des distances. Psychologiquement, être un soutien. Mais parfois, les parents, quand ils vieillissent, ils ont besoin de parler. Qu'Allah nous pardonne nos manquements. Ils ont besoin de parler. Et nous, quand on devient jeune marié, enfant, 2 enfants et tout, on n'a plus de temps. Travail, madame, enfants, il y a plein de choses à faire. Les Real de Madrid, ils jouent et tout ça. Plus du temps les charger. D'accord? Il y a tellement de choses à faire que quand les parents disent, comment, je sais pas comment vous dites, en Comorien, en Maoré, chez les Indiens, il dit Béta ou Béti, viens un petit coup, papa vous a causé coup, maman vous a causé coup. Elle dit Oupé, le vieux, quoi il veut là? On dit voilà, le bakoko, que ça il veut là? Ça saoule là. Moi, ouais, ça raconte les mêmes histoires qu'il raconte depuis 25 ans. Non, rendez-vous urgent. Désolé, papa, prochaine fois. Promis, hein? D'accord. Est-ce que c'est pas une réalité? On n'a pas le temps. Mais attention, si je trouve mon camarade, le coin de rue, direct. On rentre dans Tafsir Ibn Kathir sur PSG ou même qui va gagner l'historique, les 5 dernières rencontres, les statistiques, les joueurs qui portent chance, qui portent malchance, etc. Le maillot extérieur, intérieur. On pourra faire 40 minutes avec un ami pour parler d'une bêtise qui nous fera perdre 90 minutes de notre vie. Mais quand il s'agit de nos parents, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps parce qu'on sait déjà ce qu'ils vont dire, même si c'est le cas. Même si on sait déjà qu'est-ce qu'ils vont dire, parce qu'il ne faut que répéter la même chose. Haqiqa, une réalité. Quand on sera vieux, peut-être qu'on se rendra compte. Mais j'espère qu'on ne regrettera pas. C'est parce que sinon, si on agit comme ça, il y a de forts risques que nos enfants agissent de la même façon avec nous. Quand vous avez besoin d'un soutien, vous êtes déphasé. Il y a l'âge, il y a l'oubli, il y a les problèmes de santé, il y a plein de problématiques, d'accord? Et vous avez besoin d'un soutien. Et votre soutien, c'est votre fils ou votre fille. Et que vous le voyez fuir, qu'est-ce que vous ressentez de votre cœur? Qu'est-ce qu'on va ressentir? Vous voyez votre petit garçon là qui a 5 ans, 6 ans, 7 ans, d'accord? Ou une petite fille. Imaginez que dans 40 ans, je l'appelle, il me dit écoute, je n'ai pas le temps, je suis pressé, je m'en vais. Comment est-ce que votre cœur se fend? Alors que toi, quand tu l'as dit, à tes parents, c'était du tac au tac, c'était une réponse tout à fait naturelle, instinctive. Tu as dit, j'ai pas le temps, comme si tu avais dit au boulanger, j'ai pas la monnaie, je te ramène demain, ou, et ainsi de suite. Un truc banal. C'était une réponse à une question. Mais l'attente du papa ou de la maman envers son fils, sa fille, c'est une attente énorme, ça. Parce que c'est une attente qui traduit une reconnaissance d'années de tarbiya, d'éducation, d'années d'efforts. Pour que tu arrives à ce point-là, où tu es marié maintenant, tu as des enfants, tu as un travail, tu vis bien. Si tes parents t'avaient laissé comme un vaurien, t'avais pas donné l'éducation, t'avais laissé sortir avec tes amis, aller te shooter, te saouler et faire n'importe quoi, est-ce que tu aurais ce bon travail aujourd'hui? Est-ce que tu aurais cette situation aujourd'hui? Et ainsi de suite. Donc, un des opinions des Mufassirin, c'est le désobéissance était, le péché, c'était la désobéissance envers les parents. Ils n'ont pas obtenu le contentement des parents. Et là, ça nous permet de réfléchir. Alors que de l'autre côté, il y a quoi comme action? Allahu Akbar. C'est pas rien. C'est que la personne a donné sa vie, fils Abilillah, mort dans le chemin d'Allah. Le prophète dit que lorsque quelqu'un meurt dans le chemin d'Allah, avant que son sang ne touche le sol, qu'est-ce qu'il y a? Ses péchés sont pardonnés, à l'exception des daïnes, des dettes. C'est-à-dire que c'est quand même une action ajib, ça. Quelqu'un qui donne son corps pour défendre le din. Bref, on connaît le hadith. Malgré ça, imaginez en période de guerre, les gens ils veulent détruire une mosquée, vous donnez votre corps, vous protégez la maison d'Allah et vous mourrez. Les gens connaissent votre histoire, vous devenez un héros. Ils disent que lui c'est un héros. Il a défendu la masjid, il est mort en défendant la mosquée et ainsi de suite, ou en défendant sa famille. Ça aussi c'est shahid, hein? Celui qui meurt en défendant sa famille. D'accord? Les gens ils pensent que lui il est dans le firdaus direct. Mais il y a eu mécontentement des parents. Ce qui fait que le jannah n'accepte pas cette personne. Et là, ça nous fait réaliser que le prophète dit, là, il trouve le jannah ta'aq, celui qui a manqué, celui qui avait dans sa vie un manquement par rapport à ses parents, n'accède pas au paradis, ne peut pas entrer au paradis. Nasallallahu alayhi wa sallam. Donc ceux parmi nous qui ont la chance d'avoir encore des parents ou un des deux parents vivants, mais qu'ils s'empressent d'aller leur demander pardon pour les manquements pour les années passées, et qu'ils prennent de bonnes résolutions, et qu'Allah nous pardonne tous. Et nous avons espoir, là, une grande clémence d'Allah. Tant qu'on a les parents vivants, mes chers frères, c'est un trésor. On peut encore obtenir ce paradis par le biais de nos parents. On peut encore obtenir le contentement d'Allah par le biais de nos parents. Et on peut surtout obtenir leur pardon. Au cas où si on a mal agi. Mais s'ils sont décédés, c'est plus compliqué. Hada. Et voyez que la subhanallah, toute la beauté qu'il y a de notre dîn, la justesse qu'il y a de notre religion, lorsqu'Allah Azza wa Jal dit وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. Continuez. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفَ. Ce verset concerne la personne qui a des parents qui leur donnent à faire le mal. Imaginez que je suis converti. Je ne suis pas converti, on dit reconverti à l'islam. D'accord? Mes parents n'ont pas accepté la shahada. Ils ne veulent pas. Ils veulent pas. Est-ce que je dois les abandonner? Clairement, un langage clair. Est-ce que je dois m'isoler? Est-ce que je dois me dire que c'est des gens qui vont aller dans le jahannam, je n'ai pas à les fréquenter? Est-ce que dans un cas comme ça, je vais mettre en pratique al-burdufillah? S'éloigner de quelqu'un pour Allah? Abadan! C'est tes parents. Et le verset dit bien, s'il t'ordonne de faire le politique, de faire le shirk, et s'il t'ordonne de faire le shirk ou d'une manière générale les péchés, là on ne les obéit pas. Fala tuti'huma. Mais wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa. En ce sens, continue à bien agir avec eux dans ce monde. Sois proche. Et les savants disent qu'il n'y a pas de différence dans les relations enfants et parents, que même si les parents ne sont pas musulmans, on doit avoir le même respect. Sauf, on ne fait pas les péchés. Bien sûr, si vous dites que voilà, on va boire quelque chose, on va boire une bière ensemble, mon fils, là, on ne va pas le faire, d'accord? Ou s'il dit de venir dans tel lieu de culte pour faire d'autres invocations, bien sûr que non. Mais mis à part ça, les relations doivent être comme si que les parents étaient musulmans. Et le nasiha, le conseil, hein, on n'est pas grand de notre conseil non plus, mais le conseil qu'on donne aux personnes qui entrent dans l'islam, et Allah seul sait, mashallah, combien de personnes entrent régulièrement dans le din de la fitra, de l'inéité, on dit que si vos parents ne sont pas musulmans, ben c'est le moment de montrer ce que l'islam vous a apporté. C'est le moment de montrer à vos parents qu'est-ce que l'islam vous a apporté comme valeur, comme respect, afin que votre conversion et votre nouveau rapport avec les parents devienne un motif de guider pour eux, de hidayah pour eux. Et n'est-ce pas là l'objectif de chaque être humain? Avoir le pardon d'Allah, avoir le paradis d'Allah et être dans le Jannah avec ses proches. Ça, c'est le summum, ça. Comme le dit le verset qu'on cite souvent dans les mariages, Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyatihim. Ce verset décrit les gens de le paradis ainsi qui seront en ce sens hein, avec leurs proches, mais wa man salaha, avec leurs proches qui l'ont mérité en ce sens. Yani des proches oui, mais à condition qu'ils avaient les qualités pour entrer dans le Jannah. C'est pas parce que moi je rentre dans le Jannah que mes enfants obligatoirement vont entrer dans le Jannah, ou que mon frère, ma soeur, mon père entrent dans le Jannah obligatoirement. Non, wa man salaha, à condition qu'ils ont rempli les conditions pour l'accès au paradis, c'est-à-dire iman et bonnes œuvres. Et celui qui a pu, mashallah, qui pourra vivre cette situation, Allah maj'alna minhum, être dans le Jannah avec épouse, femme et enfants et parents, c'est là le plus grand bienfait de ce dunya. Alors que celui qui, le jour de Qiyama, retrouve femme et enfant de le Jahannam, khassira dunya wal akhirah. C'est la personne qui a raté son passage dans le dunya et dans le akhirah. Nasrullah salamata wal afiya. Hada. Et le deuxième avis des Mufassirin, là on va vers un autre sujet, toujours avec le verset qui a été dans la salah. L'autre avis des Mufassirin sur Ashab al-A'raf, c'est que ce sont des gens qui avaient un nombre égal de bonnes œuvres et de mauvaises œuvres. Les deux tafsirs sont choquants. À mon sens, les deux tafsirs font peur. Les deux tafsirs, c'est comme un électrochoc. Un, ça te fait réaliser que, comme ça, tu peux faire une vie de bonnes œuvres, mais si tes parents ne sont pas contents de toi, tu n'en parles de le Jannah. Ça fait prendre conscience, oui ou non? Ça fait réfléchir, Wallah. Ça fait réfléchir. L'autre tafsir fait réfléchir aussi. Parce que dit, c'est des gens qui avaient fait autant de bonnes œuvres que de mauvaises actions, de bonnes actions que de mauvaises actions. Et ça nous ramène vers le verset "Faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara." Celui qui accomplit un atome, un iota, toute petite quantité de bonnes œuvres le verra. Celui qui accomplit une petite quantité de péché le verra. C'est-à-dire, il n'y a pas une minuscule bonne action que les anges considèrent que ça c'est négligeable, c'est pas besoin d'écrire. Ni même un petit péché que les anges disent que ça c'est pas grand-chose, il n'y a pas besoin de l'inscrire. Non. C'est là qu'on voit qu'Allah est adl. La justice d'Allah ne fait pas volume avec personne. Tu as fait une petite bonne action, une intention, le niya de faire une bonne œuvre et tout, tu verras cette récompense. Mais pareil pour le moindre petit péché, bien sûr, en parenthèse, si on n'a pas demandé Tawba à propos de ça. Ce qui nous fait réfléchir, qui réalise, qui tient la conclusion de ce tafsir? Allez, quelqu'un qui a réalisé qu'est-ce qui est affolant. Yallah. Ce qui est affolant, vous savez, c'est quoi? C'est la précision du mizan. La précision de la balance au jour de Qiyam. C'est-à-dire qu'il y aura des gens qui auront exactement le même nombre de bonnes actions et de péchés. Si on pouvait compter hein, en milligrammes, mais ça ne se compte pas en grammes, milligrammes, il a 200 millions de milligrammes de bonnes actions, 200 millions de milligrammes de péchés. Exactement pareil. Il aurait suffi d'un subhanallah pour que tu vas dans le Jannah. Ajib. Il aurait suffi d'un Allahu Akbar. Quand tu soupires, que tu fais partie des gens du paradis, ça aurait fait pencher la balance. Et il aurait suffi qu'une seule fois, une seule fois, tu ne regardes pas cette fille qui traverse la rue pour que tu aies plus de bonnes œuvres. Vous voyez comment c'est sérieux? Non, c'est du sérieux, mes chers frères. Rigole pas là-haut. Il rigole pas. Imagine le péché que tu t'apprêtes à faire dans une heure. Imagine que c'est ce péché-là qui bloque ta balance au jour de Qiyam, qui t'empêche d'aller au Jannah. Tu vois, tes amis, ils entrent. Bissalam. Ils entrent dans le Jannah. Ils remercient Allah. Ils ont les larmes qui coulent parce qu'ils ont tapé la porte du Jannah. Et l'ange les fait entrer. Et toi, tu es bloqué. Parce que tu as fait trop de péchés. Et pas suffisamment de bonnes œuvres. Ça aussi, ça nous fait réfléchir, ça a un effet d'électrochoc et ça nous donne deux motivations. Un, de faire le maximum de bonnes œuvres. Et quelle est l'action la plus facile à accomplir, qui ne nécessite aucun état de pureté, ni de lieu particulier, ni de concentration spécifique? Qu'est-ce que vous allez dire, vous? Penser à Allah, le dhikr, le dhikr Allah. Là, quand on soupire là, au lieu de dire n'importe quoi, je sais pas quoi, des onomatopées comme on dit, oh maman, je sais pas quoi. C'est quoi cette sonnerie là? Il y a un portable dans le mimbar? Ah, quelqu'un a perdu son portable. Il la met là, d'accord. Peut-être qu'on peut le couper parce qu'on aura ça tout le... En fait, c'est la personne qui a perdu son portable qui est en train d'appeler. Voilà. Allez, on revient vers nos... Qu'est-ce qu'on disait là? Et déjà, personne, il n'aurait pas dû mettre cette musique. Allah aidé. On disait donc... Deux optiques maintenant, deux objectifs, deux motivations. Faire le maximum de bonnes œuvres et en se disant que peut-être c'est cette bonne action-là qui va faire peser ma balance. C'est celle-là qui va me donner le succès dans l'au-delà. Et l'action la plus facile à accomplir, c'est le dhikr Allah. Donc, quand quelqu'un est en train de s'étirer ou en train de machin, je sais pas quoi, au lieu de dire n'importe quoi ou le machin, dites Allahu Akbar. Yani, faites en sorte que le mot d'Allah, le nom d'Allah, sorte de votre bouche tout le temps. Il y avait une petite illustration sur Facebook, d'accord, c'est pas la meilleure des références, mais ils avaient fait un petit truc, c'était pas mal. Il dit que plutôt que de dire oh mon Dieu, ou alors des trucs comme ça, dit inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Au lieu de dire ouais, félicitations, dit mashallah, tabarakallah. Au lieu de dire zut, ou dit inna qaddarallahu ma sha'a fa'al. Et ainsi de suite. C'est-à-dire remplacer les phrases du quotidien par des adhkar. Ça vous fera de bonnes œuvres, ça vous fera de bonnes actions. Et mis à part ce genre de paroles, mais que chacun essaie de tirer un temps. Mais si on se dit que j'ai pas le temps, ben trouvez le temps pour le faire. Il y a des moments morts. Il y a des temps morts de la journée. Vous savez c'est quoi les temps morts? Les temps morts, c'est... Qui c'est qui habite dans l'immeuble ici? Presque tout le monde. À part qu'un de navire, la piscine, ne manquez pas. Hein. Quand vous descendez deux étages, trois étages, on le regarde tout WhatsApp, notification. À chaque fois, ça m'a eu de pied, on peut tomber tout. Et les gens, vous voyez dans la rue, comme ça. C'est comme des robots. Ils sont... Je sais pas... Peut-être que hein, le musulman est un miroir pour son prochain. Peut-être que moi aussi je fais ça. Mais quand je vois des gens en train depuis 100 mètres comme ça, on se dit qu'ils se sont déshumanisés. Il n'y a plus de sentiments humains. Ils sont devenus comme des robots connectés. Et on dirait que son cerveau est en mode wifi aussi, connecté avec son portable. Bref, au lieu de regarder 50 fois si quelqu'un envoie un WhatsApp, si quelqu'un envoie un message ou l'a aimé mon commentaire sur Facebook et ainsi de suite, en descendant les escaliers, chaque main, dites Subhanallah. En remontant, dites Allahu Akbar. Et c'est là que vous allez voir le grand faïda qu'il y a habité au troisième étage. Je vois derrière moi, on verra. Donc on dit allez, prends un cas à terre, bye. Fatigue au monde, quoi, ça. Nous, okay, pas mon secret. La 2, 1, mon mollet, il est terrible par rapport à ça, où, d'accord. Et deuxièmement, chaque fois que je monte, Allahu Akbar, chaque fois que je descends, Subhanallah. 5 fois par jour, si j'ai 3 étages, ça me fait 100 marches. 100 marches en montant, descendant, 5 fois par jour, ça me fait 100. 100 subhanallah, 100 Allahu Akbar. Pas mal, non? Masha'Allah. Autre temps mort de la journée, les embouteillages. Et ici, hein, la seule c'est quand il y a embouteillage. Quand vous êtes sur le littoral, où il regarde, si Gali tombe, il tombe pas. S'il écrit, oui, il tombe. Bah. Si c'est tardé, il tombe sur basse. Dhikr Allah, au lieu d'écouter Radio Freedom, au lieu d'écouter le monde, la paix de son cabri, ou la paix de son chat et tout, et ainsi de suite. Bah, soit tu écoutes lecture du Coran, des CD du Coran, ou alors lis toi-même, lis Mu'awwidhat, lis Ayatul Kursi, lis Yassin, lis Tabarak al-Ladhi, Al-Mulk, Al-Waqi'a. Faisons en sorte, ça c'est pour moi-même en premier, de meubler notre temps avec le dhikr Allah. Faisons en sorte que si on fait un bilan de notre journée, dans la journée il y a trois choses. Les bonnes actions, les mauvaises actions et les actions neutres qu'on appelle Mubah. D'accord? Faisons en sorte qu'il y ait plus de bonnes œuvres, que les bonnes œuvres dépassent de loin les deux autres catégories. Et faisons en sorte de diminuer au maximum les péchés. Et faisons en sorte que les actions du quotidien deviennent de bonnes œuvres. Quand on mange, on lit les doigts, on respecte l'éthique du croyant, la sunna quand on mange, et on mange avec l'intention de avoir de d'énergie pour faire les bonnes œuvres, les bonnes actions. Quand on se repose, on dit que voilà, je me couche tôt ce soir avec l'intention de me réveiller Qiyamul Layl. Et ainsi de suite, on aura également des récompenses. Bref, ce qu'on doit bien réaliser, c'est qu'on doit être capable de faire un bilan tous les soirs avant de dormir. Qu'est-ce que je fais comme bonnes actions? Qu'est-ce que je fais comme péché? Si je constate qu'il y a eu des péchés, je demande pardon à Allah. Et si je vois qu'il y a des péchés qui se répètent, par exemple, Abdul Malik par exemple, non, ce n'est pas le cas, hein, chaque fois qu'il va au bureau, ou alors à chaque fois qu'il va à l'institut, comment, l'ingénieur en informatique là-bas, bon, il a 5 copines, d'accord, et il fait la bise aux 5. C'est un gros problème. S'il voit que c'est un péché récurrent, il faut trouver une solution à ça. On ne peut pas vivre comme ça. Je plaisante, hein, ce n'est pas le cas. Mais si on a des péchés du quotidien qui se cumulent, on fait ça tout le temps, maintenant il faut arrêter. Si mon péché, par exemple, c'est problème vestimentaire, d'accord, vous savez, le pantalon sous la cheville, c'est un péché. Si certains vont dire que non, c'est pas... Non, ça m'a bien dit, ce qui est sous les chevilles, c'est dans le feu. Omar ibn Khattab a vu un jeune homme qui est venu le faire salam avant qu'il meure, avant que Omar meure. D'accord, les croyants venaient le faire salam, Wida'a. Fait salam à ce jeune homme, le jeune homme est reparti, il l'a vu s'éloigner, il dit rappelez-le. Il dit que relève ton pantalon. Il y a des nasihat pour relever son pantalon au-dessus de la cheville. Et ce jeune homme-là ne le faisait pas par orgueil. Et ainsi de suite. Si mon problème c'est la cigarette, mon avis c'est que la cigarette est haram. Mon opinion, puis l'imam Shafi'i, des ulama Maliki, des ulama Hanbali et des nouveaux Hanafis. Ça vous ne connaissez pas. Vous ne savez pas ça. Les néo-Hanafis, pas les anciens, ils sont également d'avis que la cigarette est haram. Parce que avant, lorsque les masla, ils disent, ont été faits, on ne connaissait pas encore l'ampleur des dégâts du, comment on appelle ça, la nicotine et trucs comme ça. Si mon problème c'est ça, j'essaie peu à peu d'arrêter. Bref, c'est-à-dire qu'on doit être un croyant intelligent. On ne doit pas subir la vie. On doit prendre les rênes de notre vie. C'est pour ça qu'il y a le verset que tu es censé lire aujourd'hui. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Non, non, c'est pas ça. لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ. C'est juste avant. 28. Pour celui d'entre vous qui veut suivre le chemin droit. Les Mufassirin disent que ce verset prouve que l'homme a le libre arbitre. Ce qui veut suivre le chemin droit. C'est-à-dire que ceux qui sont dans le droit chemin, c'est pas que Allah les a mis dans ce chemin et que tout a été facilité pour eux, et que ceux qui sont dans le péché, ils avaient rien d'autre à faire que de subir les péchés. Non, l'homme choisit, je décide de ce que je vais faire. Quand je vais en vacances, je vais à l'agence de voyage, j'ai le choix entre prendre un billet Réunion Maurice Dubaï Jeddah pour aller faire le Umrah, ou prendre un billet Réunion Maurice Thaïlande pour aller faire n'importe quoi, pour aller chercher des plaisirs que je ne trouve pas ici, loin des gens, sans généraliser, d'accord? Sans généraliser. Est-ce que il y a un ange qui te met dans l'avion, qui t'amène là-bas? C'est toi qui décides, Yahri. C'est toi qui prends la décision, je veux faire un voyage spirituel, un voyage de iman. Et l'autre côté, je fais un voyage de débauche. Je veux faire le péché, je vais aller vers le haram, un endroit où on ne me voit pas, où je vais assouvir mes désirs, mes instincts, et ainsi de suite. C'est bien toi qui décides, oui ou non? Quand on voit une personne, une jolie fille, je reviens sur cet exemple, parce que c'est les péchés du quotidien qui rentrent dans une salle d'attente ou qui rentrent dans le bus, et ainsi de suite. J'ai repéré déjà, j'ai capté, tic tac tac, j'ai repéré que ça c'est une bombastique, je sais pas comment il dit, d'accord? C'est une valeur sûre. Allez, on va être un peu plus correct. C'est une valeur sûre. Maintenant, le premier regard est pardonné, oui ou non? Le regard furtif. C'est pas le regard du furet, cachette le furet, d'accord? Non, c'est le regard furtif, pas fait exprès. Et ça va dire le regard furtif, c'est le regard, vous avez vu, c'est puis vous détournez le visage. C'est pas le premier regard, et alhamdulillah, pardonné par notre Seigneur. Alors, il ne faut pas regarder une deuxième fois. Mais vous avez déjà scanné tout, corporel, vous connaissez toutes les mensurations, ont été enregistrées. Ça, c'est pas le premier regard, Yahri. Le regard furtif. Donc, qui c'est qui décide? Qui c'est qui décide quand le temps qui vient de passer là? Se retourner pour regarder est-ce que les atouts défensifs sont aussi intéressants qu'offensifs? Qui décide? C'est pas Shaitan qui me tourne directement, non. C'est moi qui prends les décisions. Et ainsi de suite. Pareil pour les bonnes œuvres. C'est moi qui décide si je prends mon mushaf, mon Coran et je lis. C'est moi qui décide si je mets le réveil à 5h15. coiffer Fajr demain matin en congrégation, ou je mets mon réveil pour 8h45 parce que je suis fonctionnaire, je travaille pas demain, je me lève pour aller acheter mes croissants et c'est tout basse. Je fais Fajr ou non? Qui décide? C'est pas Shaitan, il vient, il dit règle portable. C'est l'homme qui prend la décision. Et la décision qu'il a prise, l'action qu'il va faire, c'est Tawfiq min Allah. Si c'est une bonne œuvre, si c'est une bonne œuvre, il remercie Allah qui lui a donné Tawfiq de faire cette bonne action. Et s'il a fait un péché, pardon, il doit réaliser que c'est Allah qui l'a éloigné de lui. A'oudhu billah. Quand quelqu'un fait un péché, la personne doit avoir des remords, double remords. Remords pour le péché qui a été accompli, et remords parce qu'Allah Azza wa Jal a prédestiné pour lui ce péché. C'est-à-dire qu'Allah est mécontent de moi, il m'a orienté vers le... J'ai pris ma décision, mais la décision que j'ai prise, Allah savait dans sa science infinie qu'est-ce que j'allais faire, et Allah m'a éloigné de lui par le biais de ce péché. Donc là, pour ça, on doit avoir encore plus de remords. Je n'ai pas été protégé par Allah. Alors que dans une situation similaire, quand Yusuf alayhi salam reçoit les avances de la princesse, qu'est-ce que Yusuf alayhi salam, qu'est-ce qu'Allah dit au Coran? Allah Akbar, c'est le verset qui dit que Allah l'a protégé. Le verset stipule qu'Allah a protégé Yusuf alayhi salam. Quand Allah aime une personne, Allah le guide vers les bonnes œuvres, mais Allah le protège également des sources de calamité, des sources de péché, du haram. Donc quand je succombe à un péché, c'est qu'Allah n'a pas voulu me rapprocher de lui. Et ça doit encore plus m'attrister que le péché lui-même. Donc, nous voyons donc le deuxième tafsir qui nous fait comprendre comment le jugement est sévère le jour de Qiyama, et daqiq et précis, et que la moindre bonne action qu'on peut accomplir peut nous être profitable le jour de Qiyama, tout comme le moindre péché peut nous causer des soucis, du tort, le jour de la résurrection, à nous de prendre les bonnes décisions. 31 minutes. Il faut encore 5 minutes. Inch'Allah. Vous dites, comme c'est que c'est au masjid. Jazakallah khair. A'oudhu billahi minash shaitan ar-rajim. Bismillahir rahmanir rahim. On a même perdu la page de Surat al-Takwir. On est sur al-Inshiqaq. Oui. Alors, on était au verset donc 19. Innahu la qawlu rasulin karim dhi quwwatin 'inda dhil 'arshi makin muta'in thumma amin. Alors, on va se contenter de ces trois versets qui parlent donc de l'ange Jibril alayhi salam. On avait parlé de ça la dernière fois, on avait conclu que ces trois versets parlent de l'ange Jibril alayhi salam. Ceci, le Coran, est la parole d'un noble messager. Et on fait référence à l'ange Jibril, doué d'une grande force et ayant un rang élevé auprès du maître du trône, obéit là-haut, c'est-à-dire obéit par les anges, obéit par tous les malaïka, est digne de confiance. Et Mufassirin rahimahumullah explique à travers ce verset que Allah Azza wa Jal confie, donc Allah donne les paroles du Coran, il les confie à l'ange Jibril alayhi salam, qui la porte donc au prophète Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, tout comme il le faisait pour la Torah à Moussa alayhi salam, le Injil, la Bible à Isa alayhi salam, et le Suhuf, les livrets du Suhuf Ibrahim à Moussa, et tous les autres Suhuf, les livrets qu'Allah Azza wa Jal avait révélés aux autres prophètes, ainsi que le Zabour, et ainsi de suite. Et les savants disent que la mission, et ça on avait expliqué je crois, la mission de l'ange Jibril dépasse de loin la mission de n'importe quel autre ange. Pourquoi? Parce que Jibril est chargé de faire vivre les cœurs. Par le wahi, il amène la spiritualité. Alors que l'ange, par exemple, Mikaïl, est chargé de la vie physique. Il amène le rizq des créatures. Mais ce que l'ange Jibril fait est de loin beaucoup plus important, parce que grâce à lui, bidnillah, il y a la vie spirituelle, la vie du cœur. Et les Mufassirin disent également, pour faire une comparaison entre la vie spirituelle et la vie mondaine, disent que le jour de Qiyama, les gens qui auront des remords dans Al-Fajr, yaqulu ya laytani qaddamtu li hayati, ils vont regretter si seulement j'avais fait donc des bonnes œuvres durant ma vie. Il dit, voyez le terme hayati, ma vie, la vie résume ce passage-là. C'est-à-dire faire des bonnes œuvres pour cette vie, c'est-à-dire pour la vie de l'au-delà. Du coup, on fait abstraction totale de la, ils font abstraction totale de la vie du dunya, et le seul élément qui ressort de leur mort, c'est qu'ils auraient dû préparer cette vie-là. Quand on dit ma vie, c'est cette vie dans l'au-delà. Preuve que c'est ça la véritable vie pour le mu'min. Et celui qui a passé sa vie dans ses passions, ses pulsions, en faisant ce qu'il avait envie de faire, en faisant les péchés qui lui plaisaient, et qui ne voulait pas se fatiguer à faire de bonnes œuvres, qui ne voulait pas se fatiguer à obéir aux ordres d'Allah, parce que souvent ces ordres-là étaient difficiles peut-être à mettre en pratique. Allah Azza wa Jalla, le Coran, il dit « Inna al-khasirin alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawm al-qiyama ala dhalika huwa al-khusranul mubin » C'est la pire des choses. Les plus grands khasara, le khasara, je n'ai pas la traduction exacte, quand on parle de khasara, c'est quand on perd quelque chose, quelqu'un qui a perdu, qui a tout raté. Et les plus grands perdants, ce sont ceux qui ont perdu alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawm al-qiyama. Ceux qui ont perdu, qui se sont perdus eux-mêmes, ainsi que leurs proches, le jour de qiyama. Ils n'ont pas assumé les responsabilités concernant leur propre personne et concernant leurs proches, madame, les enfants, les parents, la famille. Alors que dans notre verset, Allah Ta'ala nous demande quoi ? Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Protégez-vous, vos proches, contre le feu, avec la description du feu qui vient après. Et là, les grands perdants, alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawm al-qiyamah, ceux qui ont perdu, qui se sont perdus eux-mêmes et qui ont perdu leur famille le jour de qiyamah. C'est-à-dire ils ont raté leur mission sur cette terre. Ce sont les grands perdants, les vrais losers, et eux, même s'ils avaient cumulé argent, bien, richesse, honneur, célébrité, notoriété, diplôme, tout ce qu'ils pouvaient avoir cumulé de ce dunya ne leur sera d'aucun intérêt au jour de Qiyam, parce qu'ils seront qualifiés de khasirin, les gens qui ont tout raté, qui ont tout perdu. Parce que de ce dunya, ils n'ont pas obtenu le contentement d'Allah, et le jour de Qiyama, ils se sont perdus eux-mêmes à cause de leur mauvaise vie de ce dunya, à cause de leur mauvais choix, et à cause de leur mauvais choix, ils ont entraîné dans la perdition femmes et enfants. Ça, c'est le pire des scénarios. Qu'Allah nous en préserve. Parce qu'on va voir des gens comme ça. Le jour de Qiyama, les gens se reconnaissent. Et ça, ça fait partie du caractère miraculeux de l'au-delà. Malgré le nombre impressionnant des milliards de personnes, des millions de milliards, Allah seul sait, les gens ils vont se reconnaître, ils ne vont pas oublier qui était un tel. Et il y aura des gens qui seront humiliés, il y aura des gens qui vont se poser des questions, des gens qui vont dire « Ah bon, lui il a obtenu le Jannah, je ne pensais pas que c'était quelqu'un qui faisait de bonnes œuvres. » Tandis que quand on va voir d'autres personnes, on dit « Comment lui, je ne montre personne du doigt, lui dans le Jahannam, alors que de ce dunya, il donnait l'impression d'être le plus pieux parmi nous. Il faisait telle chose. » Le prophète, Allah Akbar, c'est un hadith des gens de Jahannam, dans lequel une personne, il voit une personne qui est en train d'être persécutée de Jahannam. Ses intestins qui sortent, ils tournent comme un âne avec ses intestins. Et les gens disent, comment toi, tu es avec nous dans Jahannam? Alors que dans le dunya, c'est toi qui nous ordonnais le bien et qui nous interdisais le mal. Faisais de bonnes œuvres. Propagez la religion, comme nous en train de le faire, mais ils ne mettaient pas en pratique. Qu'Allah nous protège, et qu'Allah nous pardonne nos manquements, nous aurions Allah. Et donc, les gens ils vont se reconnaître le jour de Qiyam. Et les plus grands perdants, ce sont ces personnes-là. Dans le dunya, ils étaient les plus honorés, les plus adulés, les plus aimés. On les montre un exemple, c'était l'exemple de réussite. Il a fait Harvard, il a fait Oxford, comment on appelle le côté Paris là, la Sorbonne, et ainsi de suite. Pour les Arabes, Sorbonne. Ils sont fiers. Les Arabes, quand ils connaissent quelqu'un, ils partent à la Sorbonne, ils appellent la Sorbonne. C'est Izza. C'est les plus grands, ils ont eu des grands diplômes. Yahri, étudie à Madina, Yahri, tu as le meilleur enseignement qui t'a à Sunna à côté de toi. Qu'est-ce que tu as fait à Sorbonne? Qu'est-ce que tu as fait à Oxford? Qu'est-ce que tu as fait à Cambridge? Taqillah, tu as Moul Qura, tu as le Jami Islamia, tu as ainsi de suite. N'importe quel pays. Dans n'importe quel pays musulman où il y a des universités islamiques, ou ce qu'on appelle ici Darul Uloum, tu peux apprendre le ilm, ya akhi. Tu vas perdre ton temps hein, des pays étrangers. Tu vas apprendre quoi? Tu vas devenir médecin? Tu vas soigner les gens? C'est bien, mashallah. Mais ça ne te donnera pas le manzila auprès d'Allah que celui qui aura appris le ilm shari'i, la science religieuse. Hada. Sans porter de critique, de jugement, bien sûr. Mais il y a des fois où la notion de valeur est inversée. On a l'impression que le izzat est ailleurs. Non, izzat, il est où il y a la parole d'Allah, la parole de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ne sois pas admiratif devant ce gars qui a Bac plus 19, qui a doctorat en sciences humaines, doctorat en économie. Je connais des gens qui ont fait HEC, ils n'ont pas de travail. Ici, HEC, ils sont obligés de prendre des petits boulots tout bêtes. HEC, c'est quoi? Pour rentrer dedans, il faut être malade. Pour rentrer dans des trucs comme ça, passer des concours de malade. D'accord? Bref, qu'on comprenne bien que Al-Khasirin, les gens qui ratent tout, c'est le jour de Qiyama. Cette personne, malgré tout ce qu'elle a pu cumuler, ce dunya, arrive devant le tribunal d'Allah, il se rend compte que tout son temps, toute sa vie, toute son énergie, c'était pour courir dans le dunya, gagner le dunya. Et pour ça, me dit que l'homme, l'estomac de l'homme n'est jamais plein. Tant qu'il aura de l'or, il voudra encore manger, encore de l'or, encore des biens, jusqu'à ce que la terre remplit son ventre. La seule chose qui remplit le ventre d'un homme, c'est la terre. Quand on est enterré, khalas, ça tu veux plus rien. Mais tant qu'on est vivant, il y a encore un souffle de vie, l'homme, la cupidité, l'homme veut encore gagner. Grand piège de Shaitan. Donc, Al-Khasirin, celui que je dis, Yama, voit que femme et enfant vont ensemble de l'Jahannam, que j'ai gâché ma vie, j'ai gâché la vie de ma femme, j'ai gâché la vie de mes enfants. J'ai demandé à mon épouse, ne t'habille pas comme les religieuses là, tu es quoi là? Je faisais une personne, un musulman, une femme, elle fait une remarque, tu vois, ces femmes qui se cagoulent, istihza ubiddin. J'ai envie de les maudire, mais je ne peux pas les maudire. Istihza ubiddin. Il y a d'autres personnes, d'autres. Je ne vais pas aller plus loin. Cet homme aura dit à sa femme, non, lâche tes cheveux, parfume-toi, tu te maquilles, mets des talons, habille-toi comme ça. Je ne veux pas voir, ne me fais pas honte devant mes collègues. On va prendre l'apéro, on est invité à je sais pas quoi, tel machin et tout. Il faut que tu me fasses honneur. Il faut pas qu'il pense que, voilà, ma femme est comme une afghane qui reste dans la maison. Elle met son châle, son tchador et tout. C'est une femme soumise. Ça n'a rien à faire. Il veut faire plaisir aux gens. Il veut avoir une notoriété. Il veut montrer qu'il est comme tout le monde. Yahri, tu es noir, tu es noir. C'est pas parce que tu vas faire l'intéressant que tu vas devenir blanc, aux yeux bleus, pour montrer que moi aussi je suis comme vous. Non, Yahri. Sois fier de ton iman bil kutub, iman de Rasul. Sois fier de ton dîn, de ton prophète, du Coran qu'Allah t'a donné, qu'Allah a protégé, que les autres n'ont pas eu cette chance. Tout ça, ça nous ramène vers les arcanes, l'iman, les bases de la foi. Sois fier de ton dîn, sois fier de ton Coran, sois fier de ton prophète. Et fais en sorte que ton prophète un jour sera fier de toi le jour de Qiyam. Et ne cherche pas le nœud à travers le regard des gens. Donc, il a dit à sa femme de s'habiller comme ça. Il a demandé à ses enfants de s'habiller de telle façon, de vivre de telle façon, de ne pas faire, pas besoin de te casse pas la tête, va pas à la mosquée, pas besoin d'aller apprendre à la madrasa, pas besoin de faire tout ça, essayer de vivre, machin. Pas besoin d'aller apprendre le Coran, va jouer au tennis, je te paye des cours, va faire des équitations, va faire ça, pour qu'on devienne des gens parfaitement intégrés, comme tout le monde, dans les clubs des gens, des BCBG, ainsi de suite. Al-Khasirin, qu'ulina al-Khasirin al-ladina khasiru anfusahum wa ahlihim yawm al-qiyam. Ça c'est al-khusran al-mubin. Alors qu'en face de lui, il y a ce voisin qui était, il vivait de ce qu'il pouvait gagner, il n'avait pas grand chose, il n'a pas fait beaucoup d'études, mais il restait dans le dîn, ses enfants étaient dans la religion, sa femme était dans la religion. Et là, c'est l'autre verset qui casse le cœur. Qui casse le cœur de cette personne quand on a cité tout à l'heure Jannat wa Adn yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. L'autre scénario totalement opposé, l'homme qui rentre dans le Jannah, il voit sa femme avec lui, son papa est avec lui, sa maman, ses grands-parents, wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim, ses descendants, les ascendants et les descendants, ses enfants, ses petits-enfants, ils sont tous dans le Jannah. Pourquoi? Parce que j'ai été un bon père de famille. J'ai donné l'éducation islamique à mes enfants et j'ai montré le droit chemin à mon épouse. On s'est fixé comme mission d'aller vers le dîn d'Allah tous les jours, d'essayer de s'améliorer tous les jours, de demander pardon à Allah tout le temps. Et moi-même, j'ai eu cette bonne éducation de la part de mes parents. Et donc, c'est des chaînes de iman, c'est des transmissions de foi de génération en génération. Ça, c'est la plus belle des récompenses d'être tous ensemble dans le Jannah. Qu'Allah Rabbul Izzah nous accorde cette honneur le jour de Qiyam, d'être déjà nous tous dans le Jannah et que chacun soit dans le paradis avec ses proches comme le verset le décrit. Donc, on conclut avec donc l'ange Jibril alayhi salam, doué d'une force exceptionnelle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait vu une fois avec ses 600 ailes déployées. C'est une créature d'Allah extraordinaire, exceptionnelle. Et l'ange Jibril alayhi salam, muta'in, il est obéi par tous les malaïkas. C'est le Amir, le chef de tous les anges. Les anges obéissent aux ordres de Jibril, qui reçoit lui-même les ordres, bien sûr, de la part d'Allah Azza wa Jal. Et Amin, hein, il est... Comment ils ont traduit Amin? Obéit là-haut et digne de confiance. Amin dans son travail, entre autres, de wahi, d'apporter la révélation au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, permettez-moi de conclure avec un hadith magnifique. Lorsque on connaît le rang de Jibril alayhi salam, comment c'est un ange exceptionnel, extraordinaire. Si je vous pose une question, est-ce que ça vous dirait d'être aimé par l'ange Jibril alayhi salam et d'être aimé par tous les malaïkas qui habitent les cieux? On dirait tout de suite, bien sûr. Qui c'est qui dirait non pour une proposition comme ça? وفي صلى الله عليه وسلم جاء حديث إذا أحب الله تعالى العبد نادى جبريل إن الله تعالى يحب فلان jusqu'à la fin on va dire en français hadith de lequel le prophète me dit hadith Bukhari muslim lorsqu'Allah Azza wa Jal aime un serviteur l'ange Jibril alayhi salam fait ce i'lan fait cet appel aux anges à tous les anges des cieux oh les anges sachez qu'Allah Azza wa Jal aime telle personne et que Jibril l'aime aussi. Et donc les anges font, ils se passent le message dans les cieux, à travers les sept cieux. Inna Allah yuhibbu fulanan fahibbuhu fayuhibbuhu alus sama thumma yudha'u lahu alqabul fil ard. Et donc quand ils font ce i'lan, dit que Allah aime cette personne, vous aussi aimez cette personne. Il dit que ainsi tous les habitants des cieux finissent par aimer cette personne. ثُمَّ يُضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ Et quand tous les habitants... Si Allah aime une personne et tous les anges des cieux aiment cette personne, Allah Azza wa Jal fait en sorte que cette personne trouve l'acceptation dans tout ce qu'il fait de ce dunya. La personne sera aimée par tout le monde. Ce sera quelqu'un qui sera apprécié de tous. Ce genre de personne que quand on le regarde, on a tout de suite un muhabba, une amitié, il y a quelque chose qui nous attire, il y a quelque chose de sympathique chez cette personne, on a envie d'être proche de lui, de le connaître un peu plus, parce qu'il y a, on dit qu'il y a comme un nour, une lumière sur son visage, il y a quelque chose qui est flagrant, qui ressort de cette personne. Deuxième hadith, maintenant une version du muslim, qui rejoint que lorsqu'Allah Azza wa Jal aime un serviteur, il dit à Jibril, da'a Jibril, faqala inni yuhibbu fulanan, dit, oh Jibril, moi Allah, j'aime cette personne. Quand on dit moi Allah, on n'a pas le droit de faire des gestes. Parce qu'on ne peut pas, on ne peut pas prétendre imiter les gestes d'Allah. Donc il dit que, oh Jibril, j'aime cette personne, je t'ordonne de l'aimer. Donc Allah aime ce croyant, c'est déjà un grand honneur pour lui. Et l'ange Jibril alayhi salam reçoit l'ordre d'aimer cette personne. فَيُحِبُّهُ Jibril. Et Jibril l'aime aussi. ثُمَّ يُنَادِي فِي السَّمَاءِ Et l'ange Jibril fait le i'lan, comme tout à l'heure, dans le ciel, qu'Allah aime cette personne. Je vous ordonne, ô ange qui peuple les cieux, d'aimer cette personne. Et tous les habitants des cieux aiment cette personne. Et sur la terre aussi, cette personne trouve l'acceptation. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour obtenir, pour qu'Allah Azza wa Jal soit content et qu'Allah nous aime? Simple. L'accomplissement de bonnes œuvres et l'éloignement face aux tentations au haram. Quand vous êtes tenté, vous dites non, vous contrôlez votre nafs, vous ressaisissez et vous retenez vers Allah Azza wa Jal. C'est ça qu'Allah Azza wa Jal aime. Maintenant, dans le ayat de Muslim, il y a la suite. Plus compliqué. Salam wa barakatuh. Wa idha abghada 'abdan. Lorsqu'Allah déteste quelqu'un. Lorsqu'Allah n'aime pas une personne. Qui sont les gens qu'Allah n'aime pas? Entre autres, les gens qui tombent, qui chutent de leur hawa, qui obéissent leur nafs, qui ne donnent aucune importance aux ordres d'Allah. Chaque fois qu'il y a une tentation, ils sombrent dans le haram, ils sombrent dans la tentation. Jamais ils ne pensent à Allah, jamais ils ont la taqwa Allah dans leur cœur. Lorsqu'Allah déteste une personne, da'a Jibril, il appelle l'ange Jibril, dit Inni, je déteste cette personne, je t'ordonne de détester cette personne. Et Jibril se met à détester ce croyant, cette personne. Et Jibril fait le i'lan dans les cieux, et à la fin, les habitants des cieux également vont détester cette personne. Et de ce dunya aussi, cette personne sera toujours mise de côté. Les gens, ils vont comprendre que c'est quelqu'un qui n'est pas fréquentable, quelqu'un qui a un mauvais caractère, un mauvais comportement, et les gens vont prendre leur distance avec cette personne. Donc si on veut obtenir, on veut faire partie de ces gens qui sont aimés par Allah et ensuite aimés par tous les malaïkas des cieux, on doit suivre les ordres d'Allah dans chaque situation de notre vie. On fait toujours passer l'amour pour Allah l'amour pour son prophète sallallahu alayhi wa sallam avant ce que nous, nous souhaitons et nous serons aimés par Allah azza wa jal. Qu'Allah nous tawfiq, commencer quelque part, on a été un petit peu plus long ce soir, de mettre en pratique et que ces paroles, inshallah, pénètrent nos cœurs réellement et qu'on puisse les mettre en pratique et changer nos vies, pour qu'Allah Rabbul Izza soit satisfait de nous. On va peut-être compléter à takwir, inshallah, vendredi prochain. Subhanallah, Rabbika Rabbil Izzati, Amma Yasifoun, wa salamun ala al-mursaleen, alhamdulillah, jazakallah.